vous écoutez Radio Campus Paris et à Cambridge aussi, c'est l'heure de la relève.
Voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Pour cette troisième saison, on ne change rien, on continue de s'intéresser aux nouveaux talents et aux premières fois tous les 15 jours pendant 30 minutes. Aujourd'hui, on va parler de scène, de placard et de code secret. La Maurie de Crayoncourt. Il faut que je fasse quoi tout ? Bonjour, il est 14h, nous sommes le lundi 19... On reprend. Bonjour, il est 14h, nous sommes le lundi... Non, ça c'est pas bon. Bonjour, il est 14h, nous sommes le lundi 19 novembre, vous écoutez Radio Campus Paris et à Cambridge aussi, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Pour cette troisième saison, on ne change rien, on continue de s'intéresser aux nouveaux talents et aux premières fois, tous les 15 jours pendant 30 minutes. Aujourd'hui, on va vous parler de scène, de placard et de code secret. Benoît Solès et Amaury de Crayoncourt, bonjour.
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 Bonjour Benoît, vous avez vous écrit et vous interprétez tous les deux, c'est un peu compliqué, La Machine de Turing, une pièce de théâtre actuellement à l'affiche du Théâtre Michel à Paris, bientôt en tournée dans toute la France.
Oui, on sera en tournée la saison prochaine, comme on dit.
Et on écoute tout de suite la bande-annonce.
Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret ? Un grand secret ? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, Monsieur Turing ?
Je construis une machine. Une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique.
Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre.
Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison.
Qu'est-ce qui tombe pas rond là-haut, hein ? Qu'est-ce qui tombe pas rond ?
Je sais pas.
Quelle est la nature de votre relation avec Monsieur Murray ?
Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence.
Est-ce qu'une machine peut penser ?
Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches, on ne sait pas bien quoi, seul, dans ton coin.
Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle ?
Tu es viré !
Non !
La plaisanterie est terminée !
Non !
Échec et mat, pauvre fou.
Un prophète, n'est-ce pas, professeur ?
Les idées nouvelles effraient la plupart des gens.
Oui, c'était la bande-annonce avec une bande originale, une musique de Romain Trouillet, c'est ça, j'ai bien compris ?
Exactement.
Alors, Bruno, Benoît Solès, et je vais vous appeler Bruno.
Mais c'est pas grave, tout le monde fait ça, mais je sais pas pourquoi, c'est un mystère. C'est...
Un jour, une machine me remplacera et elle ne se trompera pas.
C'est
ça,
vrai,
ça finira par arriver.
Comment,
en tout cas, vous est venue l'idée d'écrire une pièce sur Alan Turing, qui a eu le droit déjà à un film hollywoodien, qui jusqu'à une date très récente était surtout connu des spécialistes de l'intelligence artificielle ?
C'est vrai. Moi, j'ai eu l'idée de faire une pièce sur lui avant le film, c'est-à-dire vers les années 2010-2011. En baladant sur Internet, je suis tombé sur un petit caillou qui s'appelait Alan Turing, ou plutôt j'ai glissé sur une pomme, c'est-à-dire que je faisais des recherches comme ça, et puis j'ai vu sur une page Wikipédia une ligne qui renvoyait à la pomme d'Alan Turing, voire le logo d'Apple. J'ai trouvé ça curieux, étrange, intéressant. J'y suis allé et j'ai découvert que il y avait là une vie incroyable et surtout une vie qu'on avait un peu effacée des tablettes de l'histoire. La vie d'un mathématicien brillant, inventeur, théoricien de l'intelligence artificielle et de l'ordinateur, cryptanalyste, c'est-à-dire décodeur, hacker, on pourrait dire aujourd'hui, d'une machine allemande à encoder les messages qui s'appelait Enigma et qui a été capitale pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a décidé...
Enigma, ouais. C'est ce qu'utilisaient les nazis.
Exactement. Ouais, les nazis utilisaient cette machine à coder pour rendre leurs messages illisibles aux alliés, notamment aux Anglais. Et ils s'en servaient notamment pour communiquer la position de leurs sous-marins. Et ce fait de guerre était capital, déterminant dans le sort de la bataille de l'Atlantique et donc de la Seconde Guerre mondiale. C'est en tout cas ce que pensait Churchill. Et Turing va avoir un rôle capital là-dedans.
Alors vous, à Maury, oui, vous appelez bien Maury, pas Alan. Je vais y arriver, à Maury de Crayonco.
Appelez-moi Bruno. Ouais.
Ça va être plus simple.
Bruno. Je vous propose que tout le monde s'appelle Bruno.
Voilà,
et
même moi, mais moi, mais je m'appelle Bruno d'ailleurs. À Maury de Crayonco, pas du tout. À Maury de Crayonco, vous êtes celui qui donnait la réplique à Turing sous différents personnages. Ouais. Vous en aviez entendu parler avant de faire cette pièce ou pas du tout?
J'avais vu le film.
C'est Imitation Game.
Voilà. Imitation Game. C'est important de dire que donc ce texte est une création donc originale de Benoît et pas du tout une adaptation du film. On entend ça de temps en temps et c'est vrai que c'est un peu dommage de l'entendre parce que ça n'a aucun rapport hormis le fait qu'il est question d'Alan Turing. Mais là où le film s'intéresse vraiment à, et puis après on parlera plus du film, là où le film s'intéresse vraiment à Bletchley Park, donc la partie décryptage, la pièce est beaucoup plus large sur vraiment qui était l'être humain, l'homme Alan Turing. Et donc voilà, moi je fais effectivement tous les personnages qui gravitent autour de lui. Et c'est assez...
Il y a un commissaire, il y a son...
Voilà, il y a Mike Ross, le sergent qui va enquêter sur cette histoire de cambriolage, parce que donc Alan Turing débarque, il se jette un peu dans la gueule du loup, il va chez les flics en disant « Je me suis fait cambrioler ». Et puis il distille 2-3 informations qui vont faire un petit peu tilt et qui vont faire qu'on va vouloir en savoir plus sur cette personne-là. Arnold Murray, deuxième personnage, qui est donc le compagnon d'Alan Turing pendant 2 ans. Et puis Hugh Alexander, qui est donc un multiple champion d'échecs de Grande-Bretagne. Donc tous ces personnages ont vraiment existé. Hein. Donc Winston Churchill avait créé une espèce de cellule pour décrypter Enigma. Hugh Alexander était chargé de recruter en fait l'équipe. Et voilà. Et ce qui est dingue dans le texte, c'est de se dire que tout est véridique, c'est-à-dire que Benoît s'est énormément documenté, a lu et vu tout ce qui était possible de lire et voir sur le sujet. Et voilà, et Hugh Alexander donc, a vraiment recruté, peut-être pas Hugh Alexander d'ailleurs, mais la personne qui a recruté Alan Turing l'a vraiment fait en lui disant 26 x 26 x 26, ce à quoi il a tout de suite répondu
47.
17 576.
Voilà.
Ouais, parce qu'il avait un côté, je ne sais pas si on peut le diagnostiquer, mais un peu autiste savant, enfin, ça ressemble à ça.
Oui, c'est vrai. Bon, outre son bégaiement qui est connu, historique et avéré, il avait, selon moi, un peu tous les signes d'un autisme d'Asperger. Je crois qu'on appelait pas ça exactement comme ça à son époque, mais ouais, voilà. Et en tout cas, il était un mathématicien brillantissime. Et avant même de s'illustrer dans la cryptanalyse d'Enigma ou dans l'invention, excusez du peu, de l'ordinateur, il avait brillé dans ses années universitaires en résolvant un problème mathématique insoluble qui s'appelait le problème insoluble. Et lui, avec une vision différente, peu académique, original, je dirais presque poétique des mathématiques, avait réussi à briser ce premier code.
Alors pour revenir à Turing, ce qui vous intéresse quand vous écrivez la pièce, c'est le côté destin brisé. Vous dites là, il y a un sujet de tragédie. C'est
ouais, complètement.
C'est faire rencontrer la personne et
il y a un élément
ce
capital.
Côté, il a été, excusez-moi, ouais. Il a été très près de la gloire et en même temps, il finit tragiquement. On en parlera un peu plus tard, mais
oui, c'est on a dit en quelques mots ces faits d'armes pendant la guerre, ses découvertes scientifiques et ses traits de génie qui lui font s'approcher de l'ordinateur moderne. Mais il a aussi, été soumis au silence. C'est-à-dire que tout ça, pendant la guerre, c'était les services secrets, le secret d'État. On n'avait pas le droit d'en parler. Donc il a jamais pu dire en fait, qu'il avait un peu sauvé le monde. C'était un secret sans doute assez lourd à porter. Et puis dans
on
la
dit,
société...
On dit quand même qu'il a fait gagner 3 ans, 2 à 3 ans.
Oui, il a probablement abrégé par le fait de décrypter l'énigme, fait gagner la bataille de l'Atlantique, fait donc gagner la Seconde Guerre mondiale aux Alliés. Et ça a abrégé le conflit dans un sens ou dans l'autre de 2 années et puis est donc épargné sans doute plusieurs dizaines de millions de vies. Pour autant, il n'a pas eu le droit de dire ce qu'il avait fait. c'était secret d'État parce que
c'est même pas un héros très discret, c'est un héros interdit quasiment.
Ouais, c'est un voilà. Et puis comme il était aussi gay.
Pardon, on va peut-être juste rappeler qu'on est à l'époque dans la guerre froide et qu'il y a de l'autre côté il y a le bloc soviétique et qu'on a très peur des espions.
Oui, c'est ça. Au détour de la Seconde Guerre mondiale, on bascule assez rapidement dans la guerre froide. Les techniques de cryptanalyse sont toujours en cours. Il en est le précurseur, le pionnier. Il en détient les clés et donc non seulement on lui prie de ne rien dire, mais on le surveille d'ailleurs parce que comme il était un peu baroque, un peu enfant, atypique, ingérable, accessoirement gay, on trouvait que ce garçon n'était pas gérable. Et donc, on le surveillait et on lui disait qu'il n'avait droit de parler de rien.
Et surtout, Cambridge, c'est ni d'espion et ni de gay à l'époque. Et il y a cette trouille que finalement, les soviétiques arrivent à retourner les gens en leur foutant un amant dans les bras, tout
c'est
simplement.
C'est ça. C'est ce que d'ailleurs, je fais dire à Turing à un moment dans la pièce. Il dit, ben voilà, les services secrets pensaient qu'il suffisait de m'envoyer un agent russe joliment tourné en garçon de ferme ou en valet d'écurie et je vais tout lui raconter sur l'oreiller.
C'est pour ça qu'on lui interdit de participer au JO. Alan Turing était un marathonien
incroyable. En plus, il est marathonien.
Il est marathonien. C'est un vrai chiffre. Il fait 2h46 minutes. Il fait un marathon en 2h46.
Pour de vrai. Hein. Il y a encore des gens, qu'on le dit vraiment dans la pièce, des gens qui disent non, mais le marathon, machin. Oui, vraiment.
Ouais. C'est un vrai marathonien.
Un athlète de la tête et un athlète aussi des pieds.
Et donc, il n'a pas eu le droit de faire les JO.
Et en fait, il était donc sélectionnable dans l'équipe nationale pour participer aux Jeux Olympiques.
Et, il ne peut pas y aller.
Et voilà, il a pas pu y aller. Évidemment, pendant la guerre froide, l'arme la plus puissante, c'est l'information et des informations, il en avait beaucoup. Et du coup, pour les raisons que Benoît vient de citer, on l'a interdit de participer.
Et l'élément, alors, puisque vous disiez tout à l'heure à Maury que tout était vrai dans la pièce, je vais voir l'auteur, le fait que le commissaire avait vraiment perdu son frère à la guerre ?
Non.
Ça, vous l'avez. C'est pour ajouter de la dramaturgie ?
Cet élément-là précis, non. Le commissaire.
Ah, parce qu'en voyant la pièce, il y a un moment où il est très dramatique entre les deux. Oui. Et je me suis demandé comment vous l'aviez su.
Alors, c'est un fait historique qui, d'ailleurs, on a dit qu'on n'en parlerait pas, mais est relevé dans le film. Très bien expliqué. C'est d'ailleurs un élément où, dramatiquement, comme vous le dites justement, qui est très fort. C'est-à-dire qu'une fois que Turing est parvenu à décrypter cette fameuse énigme et par là même à lire les messages des Allemands et donc à connaître la position de leur sous-marin, il eût été un peu trop évident que si tous les navires de ravitaillement alliés ne se faisaient plus couler, les Allemands allaient dire « Ok, ils ont décrypté l'énigme, on va en fabriquer une autre, plus compliquée, et on repart pour un tour. » Donc, c'est pas Turing qui a pris cette décision, c'est l'amirauté, c'est Churchill peut-être lui-même. Ils se sont dit, et c'est pas le moindre des choix, on va laisser certains navires avec nos gars dessus se faire couler, certains pas, et on va comme ça essayer subtilement d'infléchir le cours de la guerre sans faire comprendre aux Allemands qu'on a cassé l'énigme et qu'on lit leur message. Vous vous rendez compte le poids de cette décision. Et il se trouve...
Il y a des gens qui auraient pu être sauvés qui ne l'ont pas été.
Bien sûr, on a consciemment, en conscience, pour faire gagner le plus grand nombre, on a sacrifié des Anglais. Et évidemment, c'est un ressort dramatique très puissant qui fait que dans la pièce, même si ça n'est pas historique, le sergent enquêteur Ross, qui est sur le point presque...
On le dit pas, les gens découvriront.
Voilà, va être pris dans cette thématique.
Mais c'est une histoire dingue. Et je crois que Churchill lui-même tenait à... c'est lui qui avait parlé du sang et des larmes. Et il était bien placé pour le savoir parce qu'il tenait à avoir les chiffres, hein, c'est ça, sur son bureau. Il voulait savoir qu'il y avait, je dis n'importe quoi, 253 mecs qui allaient mourir tel jour et qu'ils étaient au courant de ça. Donc il y avait quelque chose d'assez de très fort, mais c'est sauver la vie de laisser périr quelques centaines de personnes pour en sauver des millions.
Sur scène, Amaury de Crayon Court, vous jouez donc les alter ego de Turing, on a dit plusieurs personnages. Comment vous faites-vous pour endosser tous les personnages et comment vous faites-vous, Benoît, pour à chaque fois créer une relation différente ? C'est très frappant quand on vous voit.
La création de ces personnages, c'est assez marrant parce que c'est pas pour m'enlever du mérite, mais j'ai eu pas mal de chance en fait parce qu'il a fallu travailler très vite pour une lecture. On a fait une lecture de ce spectacle en janvier dernier à laquelle on a convié tous les producteurs d'aujourd'hui, enfin qui aujourd'hui produisent le spectacle. Avant cette lecture, il y avait une équipe, un texte, un metteur en scène, une grosse envie, mais pas encore grand chose. Et de cette lecture a découlé la suite. On a fait cinq jours de répétition. Et donc, il a fallu, texte en main, assis sur nos chaises, machin, il a fallu commencer à dessiner un peu ces personnages. Donc, de façon assez manichéenne, j'ai fabriqué un peu ces corps de Mike Ross, qui est à peu près dans mon corps, disons. Arnold Murray, qui se tient un peu les bras ballants, un peu les épaules tombantes. Et Hugh Alexander, qui se tient droit comme un i. Parce que,
Le fait très bien en direct, là. Hein.
des choses assez manichéennes, c'est vrai, mais qui permettaient, en fait, au spectateur de comprendre tout de suite de qui il s'agit.
Quand on rentre sur scène, on sait tout de suite lequel c'est, voilà.
Et du coup, c'est resté. Et du coup, après ces lectures où on a dessiné très vite les gros traits des personnages, ben en fait, c'est resté parce que c'était assez cohérent de faire ça. Et ensuite, les costumes sont arrivés, machin. Donc, tout a été assez... Il faut dire que le texte de Benoît est simple, il est facile, il est fluide. Ce projet est fluide depuis le début. C'est-à-dire que c'est assez fou de se dire qu'en janvier, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, bah voilà, on a la chance de parler à votre micro de ce spectacle. On sera plein ce soir.
Et d'avoir une salle vide, une salle pleine tous les soirs.
Exactement, c'est complet tous les soirs. C'est génial. Et tout roule quoi, dans ce spectacle, dans ce projet.
Benoît, vous faites comment, vous, à chaque fois, pour avoir la relation différente? Ça doit être très troublant.
Étonnamment, vous savez, jouer la comédie, c'est se rapporter un peu à ce que font les gosses dans la cour d'école. T'es le méchant et moi je suis le gentil. On y croit nous-mêmes. Il faut bien y croire nous-mêmes pour essayer que les autres dans la salle y croient. Donc moi, je crois que je suis Alan Turing et je le suis. Et Amaury, il est tous ces trois personnages et je le vois défiler devant moi et j'interagis avec les trois comme s'ils étaient vraiment. Vraiment, voilà, on s'amuse à se tromper nous-mêmes et à vivre ça.
Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool, ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Précipice est au bout.
Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Toutes les étoiles qui brillent.
Quelles ont à me dire les étoiles? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge. Car mon nom dîne sous ses comptines. Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fille. Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je dis ça me tend.
Et vous êtes rentré comment?
Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Que de pression dans les bars.
Personne te pousse à voir. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Légende, c'est manie.
Décalcomanie.
7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sur les tendons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa police, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu cassé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure.
Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé?
Non, vraiment pas.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Sous mes pieds, il y a la terre.
Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Mon Dieu, je peux même pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajou et pas de taxi. Les chats qui se tapent le
petit. Voilà, c'était dans les années 80, Chagrin d'amour qui chantait Chacun fait ce qui lui plaît, une chanson qui aurait sûrement plu à Alan Turing.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Oui, parce que derrière ce joyeux chaos, en fait, tout est préparé, les chansons sont choisies, tout ça est très pensé. Nous sommes toujours avec Benoît Solès. Benoît, oui, Benoît Solès et Amaury de Crayoncourt.
Benoît Solès.
Comment ?
Bruno Solès.
Ah non, c'est Benoît, arrêtez. Et Pierre de Crayoncourt, donc, voilà, pour parler ça. De la pièce La Machine de Turing, qui est toujours au Théâtre Michel à Paris, jusqu'au 31 décembre.
Ouais, alors, on peut même aller sans prendre de risque, on peut même dire qu'on va aller au-delà.
Oui. Ah, vous allez aller au-delà à Paris, tout a commencé pourtant à Avignon pour vous.
Ouais.
Au moment où vous écrivez la pièce, vous imaginez que ça va marcher si bien ?
Jamais je l'imagine à ce point. J'ai évidemment le souhait intime, très fort, de parler de Turing, de le réhabiliter très modestement à mon niveau. J'ai le sentiment qu'on va jouer le spectacle à Avignon. Il est même question de le jouer dans une salle de 60 places. Et on se retrouvera dans la meilleure salle du Off, de 200 places, le théâtre actuel, qui va se remplir en quelques jours pour ne plus désemplir de tout le festival. On va voir des gens faire la queue pour voir ce spectacle. Je dirais presque
pourquoi
physiquement.
Pourquoi Turing intéresse autant les gens aujourd'hui ?
Parce que, au-delà de la thématique sur la Seconde Guerre mondiale, l'intelligence artificielle, la création de l'ordinateur, qui est déjà passionnante, qui est un mélange d'histoire et de polar avec les services secrets, tout ça. Il y a cette thématique de cette pomme empoisonnée, ce garçon qui adorait Blanche-Neige, qui se tue en croquant une pomme, que ce serait peut-être le logo d'Apple, ça fascine un peu tout le monde. Il y a aussi ce qu'il est par sa différence, sa fragilité, un homo qui a été persécuté, qu'on a castré chimiquement suite à une condamnation pour homosexualité il n'y a quand même pas si longtemps que ça, et Dieu sait que ça résonne aujourd'hui. Et puis il y a le portrait de quelqu'un d'attachant, de différent, qui est un héros et un martyr et un génie, excusez du peu, c'est un immense personnage d'histoire et de théâtre.
Et vous, pour votre première pièce, vous avez l'intelligence de ne pas écrire une tragédie, mais d'en faire un personnage assez comique aussi. Alors, il y a deux Turing sur scène. Il y a celui qui raconte après la fin, qui lui est plus tragique. D'ailleurs, il ne bégait plus. Oui. Puis, il y a celui de la vie de tous les jours, que vous rendez très drôle, très humain. Moi, je suis sûr que j'aurais écrit cette pièce-là, j'aurais fait un truc où on aurait pleuré dès la première page.
Ouais, et ben justement, je trouvais que quand on a une pièce qui démarre avec un type qui s'apprête à croquer dans une pomme empoisonnée, on pourrait se dire, oh là là, mon Dieu, quel. Et ben, je pense d'abord qu'il était comme ça. Je pense que si on joue la pièce en français, il fallait bien lui rendre ce petit hommage british qui est cette espèce d'humour un peu acide et désespéré qu'ils peuvent avoir sur les choses et les gens. Et c'est vrai qu'il a de l'humour sur lui et il a aussi de l'humour malgré lui parce qu'il est maladroit, il est fantasque, il est foufou. Et je crois que ça le rend justement particulièrement attachant.
Donc là, on entend la version anglaise, d'ailleurs très très belle, beaucoup plus belle que la version française de D'un jour mon prince viendra, parce que Turing aimait Blanche-Neige. On a une idée de pourquoi ?
Alors, quand même, le film sort en 38, c'est le premier Disney, lui va le voir, il est à Cambridge, il voit ce film et il trouve ça magnifique. Je pense que Turing était très romantique et très enfant, donc il a tout pour aimer Blanche-Neige.
Il est aussi passionné par ce bouquin sur les lois de la nature et on sait que Disney adorait la nature et l'observait de très près. Il y a ça aussi, Blanche-Neige,
il y a des thématiques,
la, nature,
la pomme, croquer dans une pomme, la pomme du savoir universel, lui c'est un génie qui s'interroge sur le monde, il a un amour d'enfance, un garçon qu'il adorait, qui est mort, et donc un prince charmant, un bisou, une princesse, tout ça, ça le fait rêver, et du coup il chantait tout le temps en faisant son trajet à vélo avec son masque à gaz sur le nez parce qu'il avait le rhume des foins et ses serpentalons pour pas que son pyjama se prenne dans le vélo, il chantait cette chanson Un jour mon prince viendra, il adorait faire la sorcière, plonge la pomme dans le chaudron, etc., etc. Et de fait, et c'était encore cette historique, il s'est donc tué, comme je l'ai dit tout à l'heure, en trempant une pomme dans du cyanure. Donc voilà, ouais, il avait une fascination pour ça, complexe. Et vraiment une des particularités quand même de ce personnage.
Benoît Solès, pour interpréter Turing, vous êtes changé physiquement ? J'ai lu ça quelque part, ouais. Que vous étiez obligé à avoir son physique. Enfin,
il était donc marathonien, comme Amaury l'a dit tout à l'heure. Il courait vite. Pour cela, les marathoniens, c'est pas un secret, ont un corps sec. Et j'étais pas gros, mais enfin, j'ai perdu quand même 10 kilos. Je voulais à la fois avoir ce corps sec et puis aussi une espèce de fragilité, de corps plus en plus. Ça faisait partie pour moi du processus pour me rapprocher du personnage, tout comme je suis allé sur ses traces. En Angleterre, à Londres où il est né, à Cambridge où il a étudié, à Bletchley Park où il a décodé et à Manchester où il a croqué.
Mais parce que vous y avez une espèce d'identification, vous vouliez, vous cherchiez la vibration, quelque chose d'un peu irrationnel comme ça.
C'est vrai que quand j'ai retrouvé sa maison perdue dans la banlieue de Manchester, après avoir traversé à pied pendant 2 heures la campagne, et que je me suis retrouvé devant cette petite maison, j'ai eu un sentiment. Je suis très cartésien, moi, contrairement à lui qui était très paranormal.
Oui, parce que c'est ça, il est à la fois très concret et très barré
hein. Aussi. Hein, ouais. Enfin, en tout cas, là, j'ai eu une espèce de sentiment étrange de rencontre, d'intimité. Je ne cacherai pas que bien des aspects de la vie et de ce qu'est ce personnage me touchent et avec lesquels je me sens en résonance. Et puis, j'avais envie de lui rendre hommage, donc de le connaître le mieux possible intimement pour presque m'effacer derrière lui, ce qui paradoxalement fait dire aux gens que nous fait parler de nos performances d'acteurs et pourtant, on est, Amaury et moi, très motivés par le fait de défendre une histoire, de rendre hommage à cet homme. Et je crois que c'est ce que le public perçoit.
Justement, Amaury de Crayancourt, moi j'ai eu l'impression que vous faisiez plus que donner la réplique pendant la pièce. J'avais l'impression même que vous portiez votre partenaire. Je ne sais pas si c'est ce que vous vivez vous, mais
on se porte à deux. Il y a une très jolie critique dans l'Humanité qui dit que c'est un duo sensible et efficace. Et je crois que c'est ça. C'est un vrai duo. C'est un vrai travail à deux. Et c'est ça qui est. Et c'est ça qui est génial, ouais, parce que c'est.
Vous aviez déjà joué comme ça en duo avec quelqu'un ?
Non, jamais. J'avais déjà fait ce travail-là de changer rapidement de personnage et d'en jouer plusieurs, mais jamais à deux. Et ça c'est génial. Je pense qu'il faut bien s'aimer parce que d'autant plus dans ce genre d'aventure qu'on va jouer longtemps. Et là c'est le cas parce qu'on s'aime fort et on se connaissait pas du tout. Moi je connaissais Tristan Petit-Gérard, donc le metteur en scène qui nous a réunis.
Merci de le citer parce que j'ai oublié de le faire.
Oui, mais c'est vrai, on peut un peu citer Yann Plantet.
C'est lui qui est venu vous chercher, vous.
Oui, c'est ça. Il organisait des auditions, en fait, et voilà. Et donc, on se connaît depuis un petit temps, et voilà. Et on s'était toujours un petit peu loupé parce que j'étais pas dispo ou parce que voilà. Et puis là, cette fois, il me fait lire ce truc-là. Mais c'est vrai, on en parlait encore hier avec Tristan hier. Quand il m'a fait lire cette chose-là, on se connaissait pas avec Benoît. Je lis le truc. Il me dit, bon voilà, on va jouer à Avignon. Il n'y avait pas encore vraiment de production. Il y avait Thibaut Houdinière qui nous accompagnait, mais on ne savait pas encore exactement comment, concrètement. On allait jouer donc effectivement dans une petite salle à Avignon, mais on ne savait pas. Mais j'ai lu ce truc-là et j'ai trouvé ça génial immédiatement.
Ce qui est génial, c'est que c'est un personnage dont finalement, moi si je résume un mot, je dirais c'est le secret. C'est le meilleur ressort du théâtre, le secret.
Oui, c'est vrai qu'il y a des grandes thématiques qui traversent la pièce. En dehors même de l'histoire, c'est le thème du secret, et donc par là même à l'opposé de la vérité, hein, le mensonge, le secret, la vérité. Et puis le thème de la solitude aussi, je crois, qui est très présent, ou de la quête d'amour, et donc à l'inverse de la solitude. Et ces thèmes-là, sans que ça devienne philosophique et tout ça, ça donne quand même beaucoup de profondeur et permettent aussi à quiconque de s'identifier, parce qu'on est tous en quête d'amour, on est tous à l'écoute de ce que l'amour nous fait chercher ou perdre. Et puis on est tous aujourd'hui, même dans notre monde, dans notre société, à savoir ce qu'il est bon de dire, de cacher, de revendiquer, de taire. Donc la pièce, elle est à la fois historique, terriblement actuelle, et puis aussi, ce qui est le plus important, humaine.
Deux mots, parce que le temps avance très très vite et que je n'ai pas encore trouvé le code pour l'allonger. Qu'est-ce que vous disent les spectateurs après quand vous les rencontrez? Qu'est-ce qui les frappe? De quoi ils vous parlent?
Il parle beaucoup de l'émotion qu'il y a dans le spectacle. Il y a un moment que j'adore dans le spectacle, c'est les saluts. Et c'est vrai que les saluts...
Ils sont très très forts. Moi, j'en ai rarement vu des aussi intenses.
Mais c'est vrai qu'en fait, on est surpris. Encore une fois, cette histoire s'est passée vite. Et on est surpris tous les soirs, c'est vrai, de voir le monde qu'il y a. On se balance quand même des choses pendant le spectacle. Moi, j'ai ces colères comme ça, noires, que j'ai contre Turing dans mes personnages. Et ce moment où on se regarde tous les deux au salut, où ça y est, on a fini, on a raconté notre histoire, on se regarde. Et ça, on se regarde différemment tous les soirs, on se prend dans les bras différemment tous les soirs. C'est pas du tout des choses qu'on a calées. C'est vraiment quelque chose. C'est un moment où on se retrouve Benoît et moi, et puis aussi avec les spectateurs, où ils nous applaudissent. On entend parfois des merci, ça c'est magnifique. Benoît et moi, on a fait plein de spectacles. On prend la pleine mesure là de ces saluts là et de cette émotion là qu'on a en ce moment avec la machine de Turing et qui est pas quelque chose d'anodin et qu'on n'a pas à chaque fois.
Pas mieux, Benoît Solès.
Non, pas mieux. Il y a un moment très étonnant. Je vais essayer de le dire très très court. C'est vraiment à la fin, Amaury vient sur scène raconter vraiment la toute fin de la pièce et moi j'ai croqué dans ma pomme, je suis assis et le noir se fait sur moi, mais parce qu'il y a une vidéo, il y a une très belle création vidéo de Mathias Delfaux qui est très importante dans la pièce et les dernières images défilent et rétro-éclairent, si j'ose dire, le public. Et donc, c'est paradoxal parce que je suis sur scène mais dans le noir et le public est très légèrement éclairé et je vois sur les visages des gens des larmes qui coulent et ça, c'est un moment vertigineux.
Benoît Solès, Amaury de Criancourt, merci beaucoup à vous d'être venu. Je rappelle que vous êtes à l'affiche du Théâtre Michel dans une pièce qui s'appelle La Machine de Turing. On vous mettra d'autres informations sur le site internet. Je voudrais juste citer un roman de Louise Hall qui s'appelle Rêve de Machine, qui évoque aussi la personnalité de Turing. C'est une grande réussite. C'est un roman qui est apparu l'an dernier chez Gallimard. Vous venez d'écouter La Relève, épisode 3 de la saison 3. Enfin, c'est l'épisode 5, mais c'est toujours la saison 3. L'émission était proposée, présentée par Christophe à la réalisation. Il y avait Adèle, et comme je viens de vous le dire, vous retrouvez tout sur notre page Facebook ou sur le site de Radio Campus Paris. Quant à nous, on se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de La Relève. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Campus Paris.